ce dernier automne à ma cabane. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant, je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises. Il y a aujourd'hui 6 meutes sur ce massif. Et là, c'est la dernière meute installée. C'est celle-là que je suis.
Belle, belle trace.
Ça fait 30 ans que les loups sont revenus. Et pourtant, très peu de monde se prépare à leur retour.
Jean-Michel Bertrand, réalisateur et naturaliste, a sorti son dernier film, Vivre avec les loups, à l'automne dernier. Dernier volet d'une trilogie, il partait dans la vallée des loups à la quête de l'animal, puis il avait suivi leur dispersion dans Marche avec les loups. Dans ce 3e film, il explore la complexité de la cohabitation avec l'animal qu'implique son retour en France. Invité à l'occasion de la Semaine de la Nature à l'Eden Studio à Briançon, j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'échanger avec Jean-Michel Bertrand. Un entretien au cours duquel nous revenons sur les idées reçues concernant ce prédateur, les enjeux de la cohabitation avec l'humain et l'évolution du travail du réalisateur sur le loup. Dans ce 3e film, Vivre avec les loups, vous explorez la coexistence avec l'animal. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce sujet ?
En fait, au départ, je devais faire un seul film. Je devais faire La Vallée des loups. C'était déjà pas mal. C'était un film de quête. J'avais envie de ça pour poursuivre un peu ce que j'avais fait d'une façon assez expérimentale avec L'Aigle Royal, qui était un premier film cinéma sur l'aigle, qui racontait le chemin. Et donc, moi, j'étais parti sur un truc un peu plus sophistiqué. Et c'est un film que j'ai beaucoup accompagné en salle parce que j'aime bien débattre, etc. Et en fait, c'est toujours les questions des spectateurs qui m'amènent au film suivant. Voilà. Quand j'ai fait ce premier film, les gens me disaient « Mais oui, mais il y a 5 louveteaux, et puis une autre année, 7 louveteaux, mais dans cette vallée, il va y en avoir 40 au bout de 20 ans. » Des gens qui connaissent pas du tout les systèmes de régulation des prédateurs, la territorialité, la façon dont ils fonctionnent. Et c'est pour ça que j'ai fait ce 2e film, « Marche avec les loups », qui traite de la territorialité, de la dispersion, comme vous l'avez dit, et qui commençait quand même à questionner cette territorialité aussi entre... Il n'y a pas que les loups entre eux, même si le loup est le premier ennemi des autres loups, parce que voilà, ils ne se font pas de cadeaux sur les territoires, mais il y a quand même aussi le partage des territoires avec les humains. Et ces questionnements-là ont amené beaucoup de remous. De toute façon, dès qu'on parle des loups, ça y est, c'est l'hystérie dans tous les sens. Donc ça a apporté beaucoup de remous, beaucoup de haine, beaucoup, enfin de tout. Et là, je me suis dit, soit j'arrête parce que c'est irrationnel et puis on peut pas discuter. Enfin, voilà, être un ennemi désigné, je vois pas l'intérêt. Et puis, j'ai quand même gambergé, réfléchi et j'ai eu envie de faire ce film qui finalement allait, pour moi, compléter, clôturer la trilogie. Et là, on va vers la coexistence. Mais on va surtout vers la main tendue, l'empathie, la complexité. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas là du tout pour donner des réponses. C'est plutôt un film sur le questionnement. Et finalement, aujourd'hui, pour moi, ce film, il est indispensable. Mais il n'était pas du tout prévu au départ. Et c'est vraiment en 2020, à la sortie de Marche avec les loups, au bout d'un moment, j'ai dit « Allez, j'y vais ».
Et vous excluez d'emblée la question pour ou contre la présence du loup. La question dans ce film, c'est de penser comment vivre avec le loup qui est déjà là. Pour cela, vous en avez déjà parlé, vous déconstruisez plusieurs idées reçues, dont celle d'une population qui serait trop nombreuse, en montrant que les prédateurs s'autorégulent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se passe ?
Si je fais des films, à la limite, c'est presque que pour ça. Si je pouvais faire réfléchir les gens là-dessus et leur faire entendre que l'humain n'a aucun pouvoir sur la régulation des prédateurs et qu'au mieux, ça ne fait pas grand-chose, au pire, ça aggrave les choses, ça serait déjà pas mal. En fait, on est dans un esprit, dans une culture où l'humain tout-puissant règle et gère la nature. Voilà, ça date de centaines d'années, voire de milliers, et on est les héritiers de ça. Et aujourd'hui, on a toujours une grande partie de la population qui pense que c'est l'humain qui gère les forêts, qui gère les animaux, etc. En fait, moi je fais souvent le parallèle avec l'aigle royal, qui est aussi un prédateur, qui est une espèce parapluie, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui est en haut de la chaîne alimentaire, et qui fonctionne exactement de la même façon que le loup. Sauf évidemment qu'il ne fait pas les mêmes dégâts sur les troupeaux, et que le loup, il met le bazar, ça on pourra en reparler. Et il ne faut pas du tout nier ça, et ses évidences, et le bordel qu'il a mis. Et le changement de vie, de travail, qui a été imposé aux éleveurs et aux bergers par le retour du loup. Mais la régulation, ça ne sert à rien, parce que ces animaux sont territoriaux, ils ont des systèmes sociaux qui font qu'ils ne supportent pas d'être trop nombreux sur le même territoire. Et que tôt ou tard, ça vire, ça dégage. Vous voyez, un couple d'aigles royaux, c'est 50, 60, 70 km carrés. Vous n'aurez jamais 3 ou 4 couples d'aigles sur un territoire d'aigles. Et ce n'est pas vous qui choisissez, ni moi. Ce sont les aigles. Ils les virent. Les jeunes s'en vont, ils sont expulsés, etc. Chez les loups, c'est pareil. Et on a des systèmes, vu que ce sont des mammifères sociaux, intelligents, on a des systèmes beaucoup plus sophistiqués encore. C'est-à-dire qu'on a effectivement le système de dispersion, de territorialité défendue par un nombre de loups qui dépend en fait de la disponibilité en nourriture du territoire. Et en plus, quand vous avez des loups partout autour et que tous les territoires sont occupés, ce qui est le cas aujourd'hui dans les Hautes-Alpes, on en est là. Eh bien, vous avez d'autres phénomènes qui se mettent en route, c'est-à-dire une attention telle de la part des adultes qui défendent le territoire par rapport aux voisins, qui vont un peu délaisser les jeunes. Ils vont moins bien s'en occuper, il va y avoir beaucoup plus d'échecs dans l'élevage des jeunes, chose qu'on observe chez les aigles, vous voyez. Donc ça, on pourrait en parler une heure. C'est la base, c'est connu, on sait que les prédateurs ne feront jamais disparaître leur proie, parce que s'il n'y a plus de proie, il n'y a plus de prédateurs, ça c'était avant l'arrivée des humains, c'est pareil chez les grands félins en Afrique, en Asie, les lions, les tigres n'ont jamais fait disparaître leur proie, et les loups non plus. Tous les systèmes sont faits pour ça. On a donc ce système de régulation, mais si vous tapez dedans et que vous en enlevez, eh bien le système va s'inverser. C'est-à-dire que vous allez avoir des reproductions plus nombreuses, des reconquêtes de territoire, des appels d'air. On le voit avec quoi? Et là, je donne vraiment des exemples concrets. Avec quoi? Avec le renard. En France, les apprentis sorciers, soi-disant les premiers écologistes de France, comme ils se qualifient parfois, détruisent entre 5 et 600 000 renards par an. Selon les chasseurs, c'est 500 000. Selon les écolos, 600 000. Vous voyez, ça se tient. On détruit des centaines de milliers de renards par an. Est-ce que les renards sont en voie de disparition? Pas du tout. On a des reproductions multiples, des reconquêtes de territoire. Et cet exemple, on peut le voir, le vivre et l'observer. Dans tous les endroits, malheureusement, ils ne sont pas nombreux sur Terre, mais ils existent quand même, où le renard n'est pas chassé. Notamment dans le parc national des Abruzzes, où il est protégé depuis 100 ans. Notamment dans le canton de Genève, en Suisse, où la chasse est carrément interdite depuis maintenant 60 balais. Les renards ne pullulent pas. Les renards s'installent sur leur territoire et font le ménage, voyez. Et ça, si je pouvais arriver à le faire entendre, eh ben j'aurais déjà pas fait tout ça pour rien.
Eh bien, on vient de l'entendre déjà, sur Fréquence Mistral en tout cas. Et pourquoi est-ce qu'on entend alors, selon vous, plus souvent parler du loup que d'autres animaux comme le renard, par exemple, qui peuvent aussi faire des dégâts sur de l'élevage, sur de l'agriculture?
La pression n'a rien à voir, n'est pas du tout la même. On accuse tout de tout. Même les blaireaux, on détruit les blaireaux, on les déterre, on les torture. En fait, c'est juste horrible ce qui se passe pour soi-disant réguler les blaireaux, tout simplement parce qu'ils bouffent un peu de raisin, de maïs, et qu'ils transporteraient des maladies. C'est un animal totalement insignifiant, plutôt allié des agriculteurs. Et d'ailleurs, le renard est un total allié des agriculteurs, dans la mesure où il mange 90% de micro-mammifères dans son régime alimentaire. On détruit des renards parce que, ouais, ils vont bouffer les poules, ça c'est vrai, ils peuvent bouffer les poules et tout, mais bon, c'est pas très difficile de protéger un poulailler de renard, beaucoup plus difficile d'ailleurs de la fouine ou de la martre, j'en conviens. Mais bon, c'est le renard le tueur de poules, donc on le dégomme. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on les dégomme et on va mettre des tonnes de poison dans les prés, notamment dans le Cantal, des telles zones où il y a les rats-taupiers, pour détruire les rats-taupiers. Et on détruit quand même les renards, en fait. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, c'est des comportements qui sont totalement hors sol, en dehors de la connaissance biologique de ces animaux. Et là, on les tue strictement pour rien. Après, le loup, il a un autre impact. Je veux dire, le loup, il débarque, il va sur les troupeaux, en fait, demander aux éleveurs, aux bergers. Justement, moi, ça a été des relations longues et fabuleuses que j'ai pu avoir avec des gens ouverts, évidemment, que j'ai choisis. Je suis pas allé vers des gens qui venaient me pourrir et m'insulter, bien évidemment. Non, je suis allé vers des gens justes, raisonnables, qui s'intéressent au problème. Et ces gens-là, ils ont subi de plein fouet le retour des loups. Et tous les gens qui interviennent dans mon film, tous, tous ont subi des attaques, ont subi le fameux surplus killing, que les gens ne connaissent pas souvent. On dit souvent, vous savez, les loups, ils tuent plein d'animaux, ils tuent 10, 15, 20 brebis, ils ne les mangent même pas. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le surplus killing, c'est pas très beau à voir, c'est simplement le syndrome du renard dans le poulailler, justement. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un renard devant chez vous qui passe, vous avez des poules dispersées, il va en gauler une, il va la partir et la manger, vous ne vous rendrez compte de rien. Si vous fermez mal le poulailler qui rentre de nuit, boum, il va tuer tout ce qui bouge parce qu'il est dans un truc complètement inhabituel pour lui et son instinct de chasseur va le pousser à attaquer tant que ça bouge. Les chiens font la même chose et tous les canidés, tous les carnivores le font. Et donc ces gens qui ont pu subir des attaques ou du surplus killing, c'est quand même pas anodin. Et puis, il faut s'emparer des loups. Et pour s'emparer des loups, c'est du boulot, du travail supplémentaire. Il y a les systèmes des chiens. Les chiens, c'est compliqué. Ceux qui ont la passion des brebis n'ont pas forcément la passion des chiens. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de chien de protection, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc vraiment, il y a un impact réel du loup sur le monde du pastoralisme et de l'élevage. On a même des exemples incroyables. Alors c'est vrai que je suis un peu long, mais ça vaut la peine d'en parler. Par exemple, dans le Jura, où on a vu revenir les loups en 2019, j'ai assisté d'ailleurs à ce retour des loups à la fin de mon deuxième film, en direct, on va dire, le nouveau couple installé dans le Jura. Et puis tout le monde était content en disant « Mais dans le Jura, il n'y a pas de brebis, il n'y a que des vaches avec des bovins, ça va être cool et tout. » Puis en fait, il s'avère que dans le Jura, c'est la cata au niveau des bovins. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on a des techniques d'élevage où le loup a pu s'insérer. En gros, on fabrique du comté, donc on a des vaches laitières. On a une tradition qui date maintenant de très nombreuses années. On enlève le veau aussitôt qu'il naît. On l'écarte de sa mère, on lui donne du lait en poudre, hein, on le nourrit au biberon. Et là, la mère, elle va tout de suite être traite, bien sûr, parce qu'il y a une grande valeur, évidemment, dans ce lait. Et puis quand les veaux sont sevrés, eh ben on va les mettre dans des grands parcs, loin des villages, parce qu'en fait, on a besoin des vaches proches pour les traire, et on met 30, 40, 50 veaux, tout juste sevrés, loin de tout. Eh ben je peux vous dire que les loups, quand ils ont pigé ça, ils y sont allés direct. Et ça a été, j'aime pas ce mot, mais ça a été un peu carnage, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution. Elle commence à arriver, il y a des tas de bénévoles, d'aides, enfin, de réflexions pour essayer de pallier à ce problème. Mais voilà, alors le but, ce n'est pas d'accuser les gens et de dire « oui, vous avez un système d'élevage qui ne va pas du tout ». Non, c'est le loup qui nous a dit, tout simplement, « votre système d'élevage, il y a une grosse faille énorme et j'y vais direct ». Donc c'est un animal opportuniste, intelligent, qui ne laisse rien passer. Voilà.
Vous dites qu'il n'y a pas de solution, mais que faire? Quelle démarche adopter pour trouver le moyen de cohabiter?
Non, alors, il n'y a pas de solution. Dans les médias, c'est un peu la panique, parce que ça fait trois ans qu'il y a vraiment beaucoup d'attaques. Là, justement, il y a tout un système de bénévoles, dont je parle dans le film, qui vont là où il y a le feu, c'est-à-dire qui vont veiller la nuit, etc., des mois entiers pour permettre au berger de se reposer, ou à l'éleveur, parce qu'il n'y a même pas de berger dans ces endroits-là. Les clôtures sont changées et ils sont en train de travailler maintenant sur plein de trucs, notamment l'introduction de chiens, qui finalement a l'air de pas si mal de marcher avec ça. Donc on disait ça marche que sur les brebis, les chiens de protection, mais là il y a quand même des résultats pas mal. Des systèmes donc de clôture, des bergers qui doivent être là. Et donc il faut vraiment se rendre compte que le loup il nous empêche de faire ce qu'on veut. Mais le problème c'est que vous dégommez des loups, vous pouvez. Et c'est ce que demande tout le monde, oui, il faut en tuer plus. Vous tuez des loups, vous serez tranquille un mois, deux mois, peut-être. Et direct, derrière, ça redébarque. Parce qu'on est dans une phase d'expansion. On n'est pas encore du tout dans la phase de stagnation du nombre de loups. Parce que, autant dans le sud des Alpes, jusqu'à la Savoie, on est au taquet. Mais Haute-Savoie, certaines régions de l'Isère, de l'Ain, etc., il y a encore plein de place. Et ces animaux, ils vont continuer à augmenter parce qu'il y a des proies potentielles et des territoires disponibles. Et là-dessus, il y a un énorme travail, une solidarité qui se met en place. Et en dehors de cette solidarité, vous avez les extrêmes, pro-loup, anti-loup, qui se mettent sur la gueule, qui s'insultent et qui continuent à tout faire pour que rien ne bouge. Et donc moi, là-dessus, j'essaie d'avoir le côté pragmatique pour essayer de tendre des mains et de faire que les choses avancent.
Justement, pour cela, dans votre troisième film, vous donnez la parole à plusieurs acteurs concernés par le loup. Vous laissez une belle part à l'humain. Vous dites, dans le film, j'en ai autant appris sur les loups que sur les gens. Qu'avez-vous appris des gens ?
Ah ben, leur posture, leurs rêves, leurs fantasmes, leurs peurs, leur ouverture ou leur fermeture. Je veux dire, le loup, il révèle tout. C'est vraiment le révélateur de l'âme humaine, je dis quoi. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est un truc qui est tellement évident. Il y a plein de gens qui disent, moi je le dis depuis le début, mais quand je cherche les loups, depuis le premier film, déjà je me découvre moi-même parce qu'il m'amène au-delà de moi-même. Et puis le loup est un animal éminemment politique. Donc il nous apprend nos réactions, nos failles. Et c'est pour ça que le sujet est super intéressant. Parce qu'il n'y a pas que le côté biologique. Le côté biologique, il est super. Il y a déjà énormément à apprendre et on est loin de tout avoir appris. Et là-dessus, il faut être humble. Enfin bon, au plus j'en connais, au plus je me questionne. Évidemment, ça c'est le lieu commun des naturalistes. Mais non seulement il y a ce côté biologique fascinant, mais on a tout le côté politique, social. Et là, c'est des strates infinies. Il y a des géographes qui travaillent sur les loups, il y a des sociologues qui travaillent sur les loups. Il y a énormément à apprendre sur notre façon, finalement, de coexister avec cet animal qui est un poil à gratter et qui, quelque part, ne laisse rien passer. Et depuis le néolithique, depuis qu'on s'est sédentarisé, qu'on a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs, qu'on a inventé les chiens, qui viennent des loups, hein, tous les chiens descendent des loups, et qu'on a rendu des animaux vulnérables que sont justement les vaches, les moutons, etc. Et le loup, il est resté de l'autre côté. Et depuis, c'est l'ennemi juré.
Vous le disiez, vous êtes aussi allé à la rencontre de ces scientifiques et des autres humains. Vous aviez déjà fait un travail d'enquête comme ça, sociologique presque ?
Alors, je le faisais malgré moi parce que le sujet s'y prête. C'est-à-dire que forcément, on échange des observations, on reçoit des coups, enfin voilà. Donc malgré moi, j'étais déjà dans ce bain-là. Mais là, justement, j'ai vraiment décidé d'y aller, de l'assumer et de mettre ça en lumière. Et surtout de mettre en lumière la complexité de la chose et le fait qu'il n'y ait pas de réponse toute faite. Parce que les seuls, aujourd'hui, qui donnent des réponses simples à des problèmes complexes, ce sont les populistes, je le dis clairement. Et on voit d'ailleurs que c'est très facile d'aller vers les populistes qui font des promesses sur des tas, sur toutes sortes de problèmes d'ailleurs, hein, qui sont très complexes. Et les gens qui vous disent aujourd'hui, on va buter des loups et on va réguler des loups et puis vous serez peinards, c'est un langage totalement clientéliste et populiste parce que ça n'amènera aucun résultat tangible. Ça amènera du petit répit. Il y a des tas d'études internationales que tous les politiques ont sur leur bureau. Ça amènera peut-être des répits, ça amène parfois le chaos, c'est-à-dire des déstructurations de meutes qui font qu'on a des dispersions de jeunes beaucoup plus précoces avec des jeunes non éduqués. Et d'ailleurs, l'Espagne, qui avait réussi depuis la Convention de Berne à continuer à pouvoir chasser le loup parce que c'était dans leur tradition, on va dire, ils avaient eu une dérogation, ont interdit la chasse au loup depuis 2021. Et ils n'ont pas interdit la chasse au loup en Espagne parce qu'il est joli, il est mignon, le loup on l'aime, surtout pas, il ne faut pas le toucher. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont interdit de tirer des loups parce que ça mettait le bordel de tirer des loups, tout simplement comme je racontais tout à l'heure.
Je reviens sur le travail d'enquête. Comment l'avez-vous mené ? Comment choisir celles et ceux à qui vous donnez la parole ?
Feeling, c'est vraiment le feeling. C'est des gens que je connaissais ou des gens qu'on m'a présentés ou des gens qui sont présentés de même à moi, qui m'avaient vu une fois sur un reportage sur France Télévisions. Je reçois un truc sur Messenger. Ouais, moi je suis éleveur. Moi les loups je les ai, mais j'essaie de faire avec. Et puis les amis. Alors évidemment il y a une vraie subjectivité dans tout ça. Mais alors j'ai d'abord voulu choisir souvent des gens. Qui sont des invisibles, qu'on ne connaît pas. Et c'est mon argument, en fait. Parce que quand je vais dans des salles où je me fais encore secouer, c'est-à-dire il y a des gens, des éleveurs, qui sont sur le coup de l'émotion, etc., que je peux comprendre. D'ailleurs, moi, je ne leur rentre pas du tout dedans, je fais profil bas, mais ils sont hyper agressifs et tout. Et ils me disent, ouais, de toute façon, ces mecs-là, c'est des marginaux, c'est des gens qui n'ont jamais subi d'attaque de loup. Enfin, ils balancent n'importe quoi. Et ma réponse à ces gens très énervés, c'est déjà qu'ils ont tous subi des attaques, tous, et on a tous les preuves de ça, de tous les dégâts, des constats et le reste. Mais surtout, ce sont des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui ne représentent pas une idéologie. Ce sont des invisibles. Et ça, ça dérange toujours les chapelles, vous savez, les gens qui sont sûrs de tout, ça agace. C'est pour ça que ces gens-là, dans les salles, s'agacent, ou que certains syndicalistes agricoles ou certains chasseurs extrémistes m'en veulent encore, parce que ces gens-là, ils sont insaisissables. Mais ils ont toute la fragilité du questionnement, et moi, c'est ce qui m'a intéressé.
Et comment ont réagi les gens à votre film ? Est-ce qu'il y a des différences par rapport aux réactions des précédents films ?
Eh bien, contre toute attente, c'est le film qui a l'air d'être le film préféré du public, de la presse. Moi, j'ai toujours eu de bonnes critiques. Les gens ont toujours été bienveillants envers moi, le public. Enfin, je ne me suis jamais fait défoncer au niveau du cinéma, on va dire, ou des spectateurs. Mais là, il y a eu vraiment des papiers, des critiques assez incroyables. Et des gens, souvent, il y en a quelques-uns qui me disent « Oh, on préférait le premier », mais c'est très, très rare. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui me disent « Ben, on aimait les précédents, mais celui-là, c'est... » Voilà. Donc, d'autant plus, je me dis « Fallait le faire ». Et je crois qu'il est utile, parce qu'il est justement... Ben, ça y est, on a franchi le pas. On n'est plus qu'avec les loups, on est avec les gens, mais on est avec des gens qui ne conviennent pas à tout le monde, bien évidemment. On a juste des invisibles qui se questionnent. Et d'ailleurs, des fois, j'ai des gens qui me disent, dans les débats, ils me disent « Mais vous n'amenez pas de réponse dans le film ?» Ben, je dis « Je ne suis pas là pour amener des réponses. De toute façon, moi, je n'ai pas la légitimité. Moi, je suis une éponge et je suis un passeur en tant que réalisateur de film. Et je ne suis vraiment pas là pour amener des réponses. Parce que les réponses, on sait évidemment qu'il y a des pistes. On sait qu'il faut des chiens de protection, mais on sait que les chiens de protection, c'est compliqué. On sait qu'il faut des clôtures, mais les clôtures, c'est pas toujours simple, etc. On le connaît, le triptyque pour se protéger des loups dans tous les pays où il y a des loups depuis toujours et où ils n'ont pas disparu, on sait que ça fonctionne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des conséquences à tout ça. Il y a la surcharge de travail des éleveurs, des bergers. Il y a les problèmes avec les autres randonneurs. Il y a un paysan qui a des chiens de protection qui sont dehors tout l'été en montagne, qui l'hiver reste à la ferme. Ben, si ce gars-là ou cette nana, elle a des voisins, ben, les chiens, ils gueulent pour un rien et ils se fâchent avec ses voisins. C'est des petites choses comme ça que j'ai voulu mettre en avant. Et tout au long du film, on reste dans cette complexité.
Et comment voyez-vous la situation, la cohabitation dans 30 ans ?
Ben déjà, je peux rassurer ceux qui ont peur que leurs enfants se fassent manger après qu'ils aient mangé toutes les proies sauvages des Hautes-Alpes, ben que dans 30 ans, il n'y aura pas plus de loups dans les Hautes-Alpes parce qu'on est au taquet et que les loups vont faire le ménage. En revanche, il y aura beaucoup plus de loups ailleurs, ça c'est sûr. Il y aura beaucoup plus de loups dans d'autres départements parce qu'il y a encore du potentiel. On va arriver à un seuil de stagnation, mais pas tout de suite dans le reste de la France. Donc, je rassure nos amis haut-alpins que les loups ne pulluleront pas. Et ce que je vois surtout, c'est qu'il n'y a que le temps qui peut faire évoluer les choses. Alors évidemment, le loup n'a jamais été l'ami des éleveurs et des bergers. Moi, je le vois même en Mongolie, où j'ai passé un an et demi, et où les loups sont plutôt acceptés, parce qu'ils n'ont jamais disparu, qu'il y en a des dizaines de milliers, entre parenthèses, avec plein de gamins qui gardent les troupeaux dans la steppe et tout, des gamins de 7, 8, 10 ans qui ne sont jamais fait bouffer. Et les loups là-bas, ils pèsent 60 kilos, beaucoup plus gros que chez nous. Il y en a des dizaines de milliers. Je ferme la parenthèse, mais je vois les nomades, ils ont leur pétoir. Les loups, il faut jouer le rapport de force. C'est pas des jolis bisounours, mon Dieu, on les aime. Voilà, c'est pour ça que le fait de sacraliser l'animal me gêne aussi. Les loups ne se font pas de cadeaux entre eux, on n'a pas de cadeaux à leur faire, mais ça ne veut pas dire les réguler. Ça veut dire qu'un coup de pétoir, le mec qui en a ras-le-bol et tout, moi ça ne me choque pas du tout. Mais le système de vouloir les réguler, ça ne marche pas. Des fois, j'ai même des éleveurs que j'entends et qui sont sur les réseaux sociaux qui disent qu'il faut les mettre dans un parc, dans des grands parcs, voilà, comme les Abruzzes et tout. Mais d'où ils viennent tous les loups qu'on a ici ? Ils viennent des Abruzzes. D'un grand parc où ils étaient protégés, un parc ouvert bien sûr, où ils étaient protégés, où ils ne supportaient pas d'être trop nombreux. Et c'est comme ça qu'ils nous ont recolonisés, voyez. Donc voilà, et je pense que petit à petit, le loup va s'imposer. C'est un animal comme ça qui s'imposera, qui fera toujours débat, qui fera toujours plus de boulot aux gens. C'est pour ça que moi, ce que je prône pas grand-chose, mais ce que je prône vraiment, c'est... une solidarité nationale envers les éleveurs et les bergers, c'est-à-dire envers les gens qui subissent le loup. Je ne parle pas des chasseurs, parce que les chasseurs, c'est un loisir. Les éleveurs, les bergers subissent de plein fouet le retour de cet animal. On sait qu'on a une majorité de citoyens qui sont pour et qui trouvent que c'est plutôt sympa d'avoir des loups, qui montrent aussi un équilibre biologique plus intéressant avec cette espèce parapluie Il joue un rôle essentiel même pour les végétaux, pour la forêt, en régulant, en faisant bouger les ongulés sauvages. Donc c'est bien qu'il y ait des loups, mais je crois que là, il faut aller vers la main tendue. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal, je le dis clairement, et ce n'est pas de la démagogie, que ce soit les éleveurs, les bergers, qui eux seuls subissent, dans l'indifférence nationale, le retour de cet animal. C'est pour ça que quand on parle de primes, les primes, c'est normal, c'est bien en fait. Mais moi, je n'appellerais pas ça des primes. J'appellerais ça une solidarité nationale. C'est beaucoup plus classe. Et ils ont besoin de nous. Même pour le vivre ensemble avec les chiens. Le fait d'expliquer comment marchent ces chiens, je pense que l'avenir est dans la main tendue et dans le fait que le loup va s'installer comme ça de façon pérenne. Et d'ailleurs, on voyait les éleveurs, je voyais dans le Jambesort des gens qui voulaient pas mettre de chiens de protection il y a même encore 4, 5, 6 ans. Parce que mettre des chiens de protection, ça voulait dire accepter le loup quelque part. Ben, ces gens-là, ils y viennent parce que le loup s'impose. Tout bêtement. Mais on ne peut pas les laisser comme ça seuls. Et il faut aller vers du dialogue. Et c'est un peu ce qui essaie de raconter ce film.
Ce sera le mot de la fin sur ce film. Mais avant de clôturer cet entretien, j'aurais une dernière question concernant vos projets. J'ai cru comprendre que vous arrêtiez de travailler sur le loup.
Non, en fait, j'arrête de faire des films. Voilà. C'est-à-dire que la trilogie, elle se tient et j'ai pas envie de me mettre dans un ronron. Je pourrais, hein, parce qu'il y a tellement encore à dire. Non, j'ai vraiment envie de boucler cette trilogie. Moi, je vais continuer de façon perso, évidemment, à relever mes caméras, à partager, à échanger, à faire mes bivouacs. Enfin, ça, c'est un truc qui est pour moi une drogue dure. Donc, j'envisage même pas d'arrêter. Donc, ma vie va être la même. Et au niveau cinéma, j'ai envie d'autres émotions cinématographiques et je réserve, je ne sais pas si j'arriverai à monter ça, à mettre ça en place, mais une surprise ou en tout cas un nouveau type de film d'ici quelques années. Et entre-temps, je ne vais pas chômer parce que je vais écrire un bouquin. Et en fait, j'ai deux éditeurs qui m'ont sollicité. Au début, je trouvais ça bizarre. Et finalement, je me suis dit, mais évidemment, pour digérer tout ça, pour dire ce que je vous dis en 40 minutes et que j'aimerais vous dire en 4 heures ou en 10 heures, parce que dans le cinéma, c'est pareil. On se coupe un bras à chaque plan. Un film, c'est 1h30 et c'est pas 4 heures. Et donc, je me mets là, dès cet été, à écrire ce livre qui sortira, je sais pas quand, dans un an ou deux. Donc ça, c'est le premier boulot qui racontera mon parcours, qui racontera l'aigle, les loups, évidemment, les débats. J'enregistre tous les débats dans lesquels je suis, dans les salles de cinéma aussi, pour retranscrire les questions, les doutes des gens, l'ignorance parfois, et puis les croyances, et puis les questions des gamins, dans les scolaires. Les gamins posent des questions incroyables. Donc voilà, un beau bouquin, un gros pavé, écrit, et puis après un autre film différent. Vous avez le programme.
Merci Jean-Michel.
Merci.